Brisons la glace.
Eh bien, bienvenue à tous. Nous sommes le jeudi 23 mars. Je m'appelle Suzanne, je serai votre animatrice dans cette nouvelle émission de Brisons la glace. Un programme en français. On est situé à Oslo, en Norvège. Et d'ailleurs, c'est la première fois qu'on enregistre aujourd'hui à la bibliothèque d'Ekman à Bjørvika.
Gros événement.
On a vraiment hâte. Autour de la table, nous avons Alice. Bonsoir Alice.
Bonsoir.
Tu vas nous parler du milieu de la fête à Oslo.
Oui.
Autour de nous, nous avons aussi Valentin. Bonsoir Valentin.
Coucou.
Et tu vas continuer ton épopée dans l'histoire.
Toujours, on ne change pas.
Et enfin, nous avons Emma.
Hello.
Qui va continuer sur sa lancée tech.
Tech et musique, tech et culture, tech et musée, tech et tout.
Ouais, on a vraiment un gros programme aujourd'hui. Je voulais ouvrir l'émission avec une petite question. J'ai vu passer ça aujourd'hui à la radio. On m'a dit que les écoles et les lycées norvégiens allaient restreindre l'usage des téléphones pour les enfants à l'école. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Mais c'est une bonne chose, non ? Je sais pas, je vais faire la boumeuse. sans enfants en plus. Hein. Donc,
les enfants de quel âge ? Collège et lycée ?
Je pense que c'est toute la scolarité. Alors après, il faut que je lise les détails.
Après, c'est particulier parce qu'on lit aussi. Enfin, moi, j'ai pas d'enfants, donc on est un peu mal bas. Il y a aucun de nous qui a des enfants.
Mais
là,
tu étais enfant, je crois.
Mais j'ai été enfant. Non, mais par contre, j'ai des amis qui ont des enfants. Et il y en a plein d'écoles qui travaillent déjà vachement avec les iPads. Ce qui
ouais,
fait
mais
ce
l'iPad,
qui
c'est différent de du téléphone. Là, c'est parce qu'en fait, ils essaient de dire vous êtes trop distrait par les social media, etc.
Bah, c'est pas faux. Moi, j'étais à l'école il y a pas si longtemps que ça, au lycée. Et je vois que ma capacité de concentration depuis que je suis à la fac et qu'on a le droit au téléphone, elle a vachement réduit par rapport au lycée où j'étais dans un lycée où on avait interdiction d'avoir son téléphone pendant les cours et durant les pauses, peut-être.
Ouais, c'est vrai qu'en général, ça peut perturber un peu l'attention, puis ça me le retrouve un peu dans ce que tu dis. Non, je suis plutôt d'accord avec l'initiative. Ouais, j'avoue que ça me. Enfin, vu que j'ai grandi avec juste le portable au lycée, non, effectivement, je comprends que ça. Il y a un risque d'isolement, je pense, des jeunes pendant les pauses, pendant les récrés. Donc, je pense que c'est plutôt une bonne chose.
L'autre jour, j'ai vu un reportage, mais c'était en France, justement. Sur des écoles qui sont en train de se créer, justement, qui sont en mode internat. On arrive le lundi, on donne son portable et on le récupère le vendredi soir. Et il y avait, le reportage, c'était genre sur une jeune de 15 ans complètement accro à son téléphone, ouais. Voilà. Et en fait, bizarrement, elle trouvait ça cool. Depuis qu'elle faisait ça, elle trouvait que déjà, elle passait plein de temps à faire plein d'autres choses. Et surtout, il y avait cette excitation de retrouver son téléphone le vendredi. Donc, du coup, après, elle allait chez ses parents le week-end. Bah,
elle les voyait pas
mieux. Bah ouais, parce que du coup, elle était collée sur son tel. Mais en même temps, même elle considérait que c'était une bonne chose et que ça lui avait fait du bien mentalement.
Et c'est ce qu'on a fait plusieurs fois quand on faisait des sorties ou même des voyages avec les enfants d'école internationaux. On allait à l'étranger. En week-end sportif, on leur disait vous nous donnez vos téléphones, on vous les rend à la fin. Et en fait, on voit qu'ils arrivent à se parler. Et c'est un peu dur au début, hein, parce que les enfants, ils deviennent un peu gênés. Ils ne savent pas trop comment créer les conversations. Mais de fait de ne pas avoir de téléphone, ils sont un petit peu obligés de créer ce genre de relation. Comme on faisait avant.
De parler pour de vrai.
De se parler en vrai.
Ça. Et surtout, du coup, on retourne un peu sur le sujet de la semaine dernière. Mais c'est vrai qu'ici, il y a une tentation d'être tout le temps sur le portable, en fait, étant donné que... tu prends les transports aussi, t'as besoin d'avoir le pass sur le portable. Tu payes sur VIP, t'es vraiment amené assez souvent à consulter ton portable, en fait. Donc,
sans compter toutes ces notifications qui t'imposent de venir le prendre alors que tu lui as rien demandé,
oui.
Mais qu'il vibre dans ta poche.
Et vous, qu'est-ce que vous avez vu cette semaine, des choses nouvelles ?
En termes d'actualité, non, tout ce que j'ai vu changer en ce moment, c'est la météo la neige qui fond et qui est remplacée par la pluie. Donc, bienvenue à Dunkerque.
Pour la bonne dépression de la fin d'hiver.
D'ailleurs, il y a le film Saint-Omer qui est passé il n'y a pas longtemps, je crois, au cinéma. Donc, ça peut rappeler un peu le Nord. en termes d'actualité.
Non. Il y avait le festival du film qui était organisé par la faculté de sciences sociales. Peut-être qu'il est encore organisé en ce moment. Il y a pas mal de documentaires et de films qui sont projetés, notamment un qui s'appelle Not That Kind of Guy, sur une productrice qui va suivre pendant 4 ans trois hommes qui ont été condamnés pour viol en milieu festif et qui va les suivre avant, pendant et après leur incarcération. Donc c'est très intéressant et ça permet un peu de déconstruire le mythe du violeur qui n'agresse que dans un coin de rue et qui est totalement étranger. Mmh. Du coup, il est diffusé en ce moment durant le festival du film.
Ok.
Ok, super. Emma, d'autres idées, enfin d'autres nouvelles que tu as entendues cette semaine en Norvège?
D'autres nouvelles sur la Norvège? Non, moi, on m'a beaucoup posé de questions sur le 49-3. Mais on a dit qu'on ne parlait pas politique. J'ai des Norvégiens qui n'ont pas compris le concept du 49-3.
Ouais.
Voilà.
Parce que ça n'existe pas dans le gouvernement norvégien.
C'est pas hyper démocratique en fait. Donc ils ont du mal avec ça. Mais bon, on a dit qu'on parlait pas politique, donc voilà.
Et bien justement, je vous ai préparé un agenda du week-end.
Très bien.
Parce que la semaine est déjà bien avancée, on est jeudi. On commence par demain. Vu qu'on avait parlé des artistes Samy la semaine dernière, j'ai trouvé un concert sympa pour ceux qui veulent découvrir deux jeunes artistes. Elles s'appellent Katarina Baruk et Elina Woge. Je ne sais pas si je prononce correctement. Elles sont
Personne
en concert.
Personne ne peut te corriger ici.
Je vous regarde. Le concert est pas très loin d'ici, le musée de Munch. C'est à 19h et l'entrée, c'est 250 couronnes. Voilà. Bon, un petit prix. Le samedi, il y a un autre concert à Salt. Alors là, j'ai trouvé assez sympa. C'est un orchestre qui est en ambiance Motown. Donc, ils vont jouer du Stevie Wonder, des Jackson 5. Ils vont tout revisiter avec une soirée pleine d'énergie. Donc ça, c'est à 18h. Et donc là, ils ont un prix étudiant. C'est 120 couronnes pour les étudiants. Sinon, c'est 180 couronnes. Voilà. Et la dernière idée. Alors, je ne sais pas si autour de la table, ça va vous brancher. Si vous êtes branché couture, non. Parce que bientôt, il y a le 17 mai. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais les étrangers, on n'a pas le droit de porter une bunade. Donc, on a le droit de porter ce qui s'appelle le Festdracht. Et donc, il y a tout le week-end, en fait, il y a l'atelier Oslo Sew Club qui vous propose de vous aider à confectionner votre propre robe de Festdracht. Voilà, donc si vous avez des idées, des matériaux, une envie de participer à la fête nationale du 16 mai en ayant un petit peu l'air...
Du 17 mai. Je me permets. Hein.
Qu'est-ce que j'ai dit?
Le 16.
Le 16, non, le 17. Ouais. C'est écrit en plus sur mon texte. Donc voilà, il faut participer, c'est seulement 25 couronnes, donc c'est pas beaucoup. Il faut s'inscrire en avance.
C'est pas moins cher que la première proposition.
10 fois moins cher. Donc pour les petits budgets, si vous voulez un petit coup de main pour préparer le 17 mai, la fête nationale. Voilà, c'était mes petits
rendez-vous. T'as pas oublié tes chouchous en concert?
Mais ouais, mais t'as dit que tu les aimais pas.
Mais c'est pas que je les aimais pas. C'est pas vrai, regarde.
Moi, je serai au concert de Bon Entendeur samedi soir à Park Theater.
Salut. C'est Claude MC Solar pour Bon Entendeur. Je vais parler des années 90, les choses qui se passaient, du temps de la carte orange, sortir, le soir, sound system, soirée. C'était la fête, c'était la fête. Fallait sortir, pour nous c'était l'évasion. Paris la nuit, les chats c'était des lions. On sort en bande, certains n'ont pas les jetons. Argent facile, certains tondaient les moutons. Des blocs parties, des taggers et des fly girls. On voit des punks, des rasta et des tags.
Ah, ils nous font voyager, Bon Entendeur. Donc, ils seront samedi à Park Theater. Le concert est sold out. Donc, désolé si vous n'avez pas votre ticket. Mais tant pis pour vous.
Je ne m'attendais pas à entendre la voix d'MC Solar. Moi.
Non, ils font des remixes super sympas.
C'est pas que des remixes d'ailleurs, hein. Ils font venir, ils ont fait venir Jane Birkin, MC Solar qui a fait un peu son grand retour avec ce morceau. Ils arrivent là où on peut
se rejoindre,
c'est que Bon Entendeur arrive à fédérer toutes les générations, quelque part. Ouais. Donc, c'est ça leur force. C'est peut-être ça que j'aime moins, moi, personnellement, mais c'est...
C'est chacun...
Exactement.
Aime différentes choses. Et bien, justement, parce que Bon Entendeur, c'est quand même une sacrée musique pour faire la fête. Et ça nous fait une transition parfaite pour toi, Alice.
Oui.
Alors, raconte-nous tout. Je sais que tu avais envie de parler du milieu de la fête.
Oui, parce que j'aime bien faire la fête, déjà. Alors, si je vous parle quelque chose de blanc et de poudreux qu'on retrouve à Oslo.
La neige. La neige.
On dira tous la neige, mais non, je parle de cocaïne. Alors, selon une étude de 2022 reprenant les analyses des eaux usées de différentes grandes villes en Europe, on se rend compte que la cocaïne est présente dans énormément d'urine de personnes vivant en Europe, notamment à Oslo. Et du coup, c'est une drogue qui est issue de la plante de coca et qui est présente particulièrement dans les milieux financiers, le cinéma et le milieu festif. Elle est aussi réputée pour être la drogue des personnes riches. En ce moment, elle est à 60 euros le gramme, ce qui a un peu baissé depuis 10 ans.
En Norvège aussi ?
Je ne sais pas. Mais c'est une drogue qui est décrite comme une drogue permettant une meilleure productivité. La montée de la drogue, elle entraînerait un speed qui est assez stimulant. Et il y aurait moins de pertes de contrôle qu'en prenant d'autres drogues. Du coup, selon différentes études entre 2014 et 2021, c'est la deuxième drogue qui est la plus utilisée à Oslo, et particulièrement chez les 16-30 ans, chez les hommes et chez les étudiants employés et les personnes étant diplômées, donc plutôt des personnes qui sont issues de milieux socio-économiques plus aisés ou qui tendent vers des milieux socio-économiques plus aisés.
Parce qu'on n'a pas de prix étudiant pour la cocaïne, du coup.
Non, ça n'existe pas. Mais du coup, on la retrouve beaucoup dans les milieux festifs et elle est utilisée déjà parce que elle est déjà utilisée en groupe parce que ça permet de commettre une infraction ensemble et ça rapproche. Voilà.
Par raison à Pierre Palmade.
On n'y croirait pas, mais oui. Voilà, la montée de la drogue, elle permet aussi une connexion au sein du groupe, un effet d'effervescence, et elle permet, ce qui est assez étrange, de garder le contrôle face à une prise d'alcool très importante. Si vous vous rendez en boîte de nuit en Norvège, vous vous rendrez compte que les Norvégiens ne tiennent pas forcément très bien l'alcool. Et du coup, ils ont eu l'idée d'utiliser un produit illégal pour maintenir un contrôle social et un contrôle de leur comportement dans l'espace public. Et du coup, elle est utilisée pour que ce soit un peu plus discret avec une clé, et plus avec la fameuse carte bleue. Voilà, on trempe la clé dans le pot et puis on sniffe la clé. Et il y a même certains clubs Oslo qui ont retiré la lunette des toilettes pour éviter qu'on l'utilise dans les toilettes et qu'on fasse son rail dessus.
Il n'y a plus rien de plat dans les clubs.
On peut plus rien faire. Ah, c'est gore. Voilà. C'est gore. La lunette des toilettes,
ouais,
c'est gore.
C'est pas propre. Et au niveau de la pénalisation, la Norvège n'échappe pas à ce que d'autres pays européens sont en train de faire. Le gouvernement réfléchit actuellement à une décriminalisation de certaines drogues dont la cocaïne fait partie. Et au niveau social, c'est une drogue que les personnes prennent sans forcément se reconnaître comme des personnes droguées. Voilà, ils vont pas s'identifier aux personnes qui voient dans la rue déambuler et qui ont pris par exemple énormément d'héroïne. Pour autant, ils essayent de garder cette partie d'eux-mêmes et cette activité-là assez secrète parce que c'est encore assez mal vu en Norvège. Donc dans la globalité, c'est une drogue qui souffre d'une certaine stigmatisation, mais cette stigmatisation est beaucoup moindre parce que c'est une drogue qui reste quand même associée à des milieux assez aisés, des milieux où les gens travaillent, ont des emplois importants. Et finalement, selon une dernière étude de 2022, on se rend compte que les personnes prenant de la drogue et étant issues de milieux socio-économiques plus aisés ont des risques, ont moins de risques d'être arrêtées déjà, ont moins de risques d'être poursuivis et d'avoir une peine juridique, et ont aussi des amendes qui sont moindres que les personnes qui sont issues de milieux moins aisés et avec des parents ayant des emplois et moins de temps à leur consacrer. Du coup, voilà, Oslo est surnommée la Cocaine City.
Ah bah ça, je savais pas.
Non plus.
Moi non plus. Et en même temps, l'étude, elle montre pas un truc là, c'est que la cocaïne, c'est peut-être la drogue la plus dure à laquelle échapper quand t'es addict.
Ouais.
C'est la drogue qui ment.
Oui, énormément.
C'est la drogue avec une addiction la plus haute de toutes les drogues. Mmh. Et où les gens, justement, te disent « Ah, ben, ils se rendent pas compte qu'ils sont drogués. » Ben non, parce que non. La semaine, ils vont rien faire.
Oui, voilà,
c'est ça. Et puis, dès le jeudi, dès le vendredi, ils vont s'en foutre plein de pif.
Oui.
Et ils vont se dire « Ben non, ben, moi, je suis pas accro. » Alors qu'en fait, si, ils ont juste 2-3 jours où ils vont pas prendre de produits. Bah, et après, ça, c'est d'autres études aussi qui montrent ça.
L'étude montre qu'il y a quand même un gros niveau de déni chez les consommateurs qui sont plus inquiets par rapport à des risques cardiaques futurs, mais que pour eux, c'est juste quelque chose qu'ils utilisent le week-end, donc ce n'est pas grave, et c'est comme prendre de l'alcool. C'est le week-end, on se relâche, et puis la semaine, on revient à sa vie étudiante ou à son travail.
Ouais, sauf qu'il y a zéro palliatif à la coke.
Voilà.
Contrairement à l'héroïne. Enfin, je ne veux pas faire la spécialité.
J'ai l'impression que... Tu as de maîtriser ton sujet.
Non, c'est un domaine qui m'a intéressé beaucoup, parce que j'ai fait de la prévention quand j'étais plus jeune. Ouais. Et la cocaïne, c'est vraiment la drogue la plus compliquée, la plus violente aussi, parce que justement, on se rend pas compte qu'on est accro. Elle fait mentir, elle fait devenir paranoïaque. Et surtout, il n'y a rien pour la pallier.
Non.
Un addict à l'héroïne, on va lui donner du Subutex, voilà. Il y a des traitements, il y a des choses. Les accros de la cocaïne, il n'y en a pas, il n'y a que des psys, et souvent les gens retombent.
Ouais.
Regardons Pierre Palmade. J'ai envie de dire.
On revient à Pierre Palmade.
Ben oui.
Ah ben merci pour ta belle chronique.
De rien.
Dans le milieu fessier, on va faire une petite pause musicale avec qui ?
Alors, avec Sivert Oyam, et le morceau s'appelle Sleepwalking Man.
Eh bien, c'était Sivert Oyam, Sleepwalking Man. C'était ton choix, Valentin ?
C'est ça, ouais.
Super morceau, c'est vraiment sympa. Je voulais préciser à nos auditeurs que nous avons une page SoundCloud où vous allez chercher l'émission Brisons la glace et vous pouvez réécouter nos émissions puisque pour l'instant on n'est pas en direct, on est en différé, peut-être on croise les doigts bientôt, oui. On sera en direct et je te sens fébrile du Bluetooth là. Qu'est-ce qui se passe ?
Mais quand est-ce que tu veux que je lance mon truc ?
Ah mais c'est pas à moi.
Voilà pourquoi on n'est pas en direct hein.
Ah mais oui, non, tu peux respirer.
J'ai paniqué. Pardon.
Mais c'est pas grave, parce que maintenant, on va parler histoire, on va se tourner vers Valentin.
Oui. Alors, j'ai pour habitude de m'intéresser un peu à l'histoire du pays dans lequel nous sommes, la Norvège, hein, si vous prenez l'émission en cours de route. Je vais parler d'un sujet qui est assez festif aussi, oui. Qui se prête volontiers aux fous rires et aux crampes zygomatiques. La peste noire. Voilà, on est parti.
celui-là, je crois.
Je pensais plus au roulement de tambour, mais c'est pas grave. Parfait. Merci la technique. Parlons un peu de la peste noire et des symptômes qu'elle apporte. Ça ressemble un peu au Covid. Donc fièvre, c'est ce que nous disent les gens qui ont été contaminés hein, auparavant. En tout cas, du coup, voilà, fièvre, un peu fébrile. Et puis à cela s'ajoutent aussi des ganglions qui vont grossir d'une taille variable, disons telle de balle de ping-pong, peut-être plus. Et derrière, on a une mortalité de 60%.
Et de quoi meurent les gens ?
La comparaison avec le Covid s'arrête là. La différence aussi que cette maladie avec le Covid, c'est qu'elle va se transmettre par piqûres de puces, donc qui ont cette force, cette capacité à sauter à des distances assez incroyables. Pourquoi je parle de la peste noire ? C'est une question qu'on peut se poser maintenant. Parce que historiquement, la peste a beaucoup perturbé, même brusquement perturbé, en fait, l'histoire de la Norvège. Pour comprendre un peu l'histoire, on va revenir 8 siècles en arrière, donc nous voilà au XIIIe siècle. La Norvège sort de 100 ans de guerre civile, des petits problèmes de passation de pouvoir. Du coup, le pays est un peu claqué et progressivement, il va se reconstruire, se solidifier. Les changements de roi se font tranquillement. L'administration est devenue efficace. La Norvège est aussi un pays prospère qui arrive à commercer avec des pays voisins, avec notamment du poisson salé, mais bon, ça reste un bien à commercer. Hein. La population de Sweden connaît une grosse croissance. Et le royaume s'étend du Groenland, en passant par l'Islande, et comprend également la partie continentale de la Norvège, qui est le pays actuel que nous connaissons. Bref, du coup, le pays brille, il claque, comme on le connaît, et encore, ils n'ont même pas découvert le pétrole. On estime même au XVe siècle que le royaume est l'un des plus puissants d'Europe. Donc du coup, tout roule, mais qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, la peste arrive. Elle arrive par Bergen, donc on date ça en 1349. Le virus est venu progressivement d'Asie, il s'est répandu de port en port. Et comme Bergen, c'est un grand port de commerce d'où partent des poissons, des biens vers différents pays d'Europe, eh bien, le virus va arriver par ce port. Et progressivement, il va se répandre donc, du coup, sur tout le nord de la Norvège. Entre-temps aussi, il arrive à Oslo. Et du coup, d'Oslo, il va se répandre jusqu'à Stavanger. Il va partir aussi vers le centre de la Norvège.
Que des petites puces qui sautillent.
C'est ça, grâce aux puces. C'est
au début. Près de pangolins, c'est les puces.
Et du coup, ce qui aide pas, c'est que du coup, les gens se rendent pas compte que forcément les puces sont à l'origine du problème. Ils continuent à voyager. Quand on a une personne du coup, qui voit que ça pue dans la ville, comme les Parisiens finalement, pendant le Covid, ils se disent, on va partir de la ville, ça va être plus sûr pour nous. Mais sauf qu'il amène ses puces aussi avec lui. Donc bref, le virus se répand bien. Qu'est-ce qui fait que la peste, on parle davantage de la peste noire en Norvège, si on regarde l'histoire, que dans d'autres pays. C'est parce qu'en fait, la Norvège est le pays qui connaît le plus gros taux de mortalité à cause de ce virus. Il y avait à peu près 500 000 habitants avant l'épidémie, et on tombe à 250 000, donc c'est à peu près la moitié du pays qui se vide. Derrière, du coup, on a les fermes qui se vident, donc le virus va attaquer toutes les régions du pays, également les fermes, donc du coup, on a une baisse de la production de blé. Et aussi, on a beaucoup parlé de l'égalité dans ce pays, et ben, le virus aussi est très sensible, et surtout en Norvège, et du coup il va aller frapper dans toutes les catégories sociales, enfin un peu de sociologie hein, si tu veux aimer. Et ça va notamment en fait, ça va beaucoup frapper la noblesse et l'aristocratie norvégienne, plus que dans d'autres pays.
Coke. Un autre fléau, un autre temps.
On va parler de Pierre Palmade à un moment, c'est sûr. Et du coup, même on estime qu'il y a 80% en fait de cette catégorie sociale, du coup l'aristocratie, la noblesse, qui en fait est disséminée par le virus.
Ah ouais, quand même. C'est
efficace. Donc les marxistes seraient heureux. Ouais. Bon, ça s'arrête là. on a aussi le clergé qui est très disséminé, parce qu'en fait c'est eux qui essaient de prendre en charge les malades. Pour la petite anecdote, du coup à Bergen, on avait au moment où le virus arrive, on avait deux hôpitaux qui se sont concentrés notamment sur le traitement de la lèpre. Du coup, la peste, on ne sait pas gérer. Allez voir les moines et les prêtres. Et finalement, les prêtres n'ont pas pu faire grand-chose. Donc, on passe quand même, avant l'épidémie, de 300 prêtres à 40.
Ah oui.
Ah ben, merci de nous avoir refilé, quoi.
Voilà. Bref, ouais. Du coup, aristocratie en berne, ce qu'on peut dire, hein, c'est le moindre des choses. Clergé disséminé, royaume ruiné, parce que du coup, les taxes rentrent un peu moins, hein, on perd la moitié de la population. Du coup, derrière l'administration qui s'effondre parce que les personnes ne sont plus vivantes, tout simplement. Bref, du coup, ça brille plus trop pour la Norvège. Et du coup, comment le pays s'en sort ? Bien, pas très bien, en fait, parce qu'on arrive du coup là à la fin du 14e siècle, donc là, le virus est arrivé en 1349, donc il a eu le temps de frapper à pas mal de portes, et se décide une union entre le royaume de la Norvège, le royaume de Danemark et le royaume de la Suède, qu'on appelle l'union de Kalmar. Et en fait, donc même si on parle du nom de royaume, finalement, en fait, c'est une monarchie danoise qui va contrôler tout le royaume, enfin tous les trois royaumes, du coup. Et forcément, en monarchie, le peuple, on ne l'écoute pas forcément beaucoup. En tout cas, on est plus sensible du coup à ce que peut dire la monarchie, la noblesse, l'aristocratie et le clergé, ce que la Norvège a perdu en fait. Donc du coup, le pays est plus trop écouté par la monarchie danoise. Et on se retrouve, et du coup, les Danois vont en profiter pour à la fois favoriser du coup leur pays, donc le Danemark, et au détriment de la Norvège. Sur lequel on va imposer du coup des taxes qui vont financer des guerres de la monarchie danoise et également prendre des décisions qui vont être au désavantage des Norvégiens. Alors au même moment on a des commerçants qui ont la main mise en fait sur différents ports norvégiens, les Anseates je crois, et en fait on va la monarchie danoise va leur donner de plus en plus de pouvoir au détriment des autorités locales norvégiennes, bon, ce qui fait qu'en fait on se retrouve avec un pays encore plus affaibli pendant l'union de Kalmar que ce qu'on a connu juste avant l'épidémie. Et du coup c'est effectivement les historiens considèrent que la peste noire en cela a considérablement affaibli la Norvège et a fait que dans cette union elle a tout perdu. Et du coup, on pourra dire qu'à un moment, la Norvège va s'en sortir de cette union, mais ça pourra faire l'objet d'une autre chronique.
Pour la prochaine fois. On a envie de savoir maintenant.
Trop de suspense.
Merci beaucoup, Valentin, pour cette précieuse chronique historique. Ça ne doit pas être sympa, mais du coup, les puces, elles survivaient aux températures négatives ?
Ah, justement, en fait, du coup, en hiver, apparemment, ça se passait mieux.
Parce que je me dis la puce quand même.
Autant le pangolin. Bon.
Non mais bon, la puce et les températures qu'il y a dans le nord de la Norvège.
Ouais, du coup, ce que j'ai pu lire, c'est qu'en hiver, l'épidémie reculait en fait, était bloquée. Et plutôt, après, du coup, forcément, en été, là, les puces profitaient plutôt des températures pour se reproduire et du coup, s'oxyder gaiement.
Mais est-ce que la puce peut se réfrigérer et se réveiller? Au printemps, tu vois, un peu comme Hibernatus ou...
Moi, j'ai entendu ça pour la grippe espagnole.
Ah, donc du coup...
Que du coup, alors...
Le virus peut se réveiller, quoi.
Alors, genre, en fait, c'était sur la chaîne YouTube de... Oh, comment il s'appelle déjà ? Peu importe. Dirty Biology, qui a arrêté maintenant, d'ailleurs, pour d'autres questions. Mais il parlait de la grippe espagnole et qu'ils avaient enterré des malades au Svalbard. Parce que en fait, c'était tellement la catastrophe, la grippe espagnole, qu'ils ont carrément envoyé des corps là-bas. Mais que si le réchauffement s'accélérait, que les bactéries pouvaient s'échapper des corps défunts.
C'est justement, tiens, tu soulèves un truc. Je crois que c'est vers le Svalbard ou un truc comme ça qu'il y a tous les virus du monde dans un espèce de de labo de malade mental. En gros, si ce truc explose, on est sérieusement
ça devient
c'est genre le musée des microbes et des virus, et qui du coup, oui, je sais pas pourquoi il est très haut dans le nord, mais il est là quelque part.
Ah c'est peut-être pour les conditions de
L'île est vraiment pas accueillante en fait au Svalbard, parce que du coup entre ce réfrigérateur et puis ces corps enseminés et puis
On se faire bouffer par un ours.
Oui, c'est ça, les gens sortent avec un pistolet.
T'es obligé d'avoir quelqu'un qui avec un carabine ou un pistolet avec. Ouais.
Chaud.
Il y a des vacances, profitez avant que la température monte trop.
Par contre, on me l'a conseillé à Svalbard, on m'a dit que c'était super, mais qu'il ne fallait pas y rester une semaine. Donc il faut compter vraiment 3-4 jours.
Le temps de faire un petit voyage en chien de traîneau.
Voilà, de faire un petit peu des excursions en bateau, parce qu'apparemment il y a pas mal de trucs sympas à voir. Ouais. Mais que bon, t'as vite fait le tour, puisque tu ne peux pas accéder à tout, de toute façon, dans l'île. Voilà.
Enfin, je vais poser un peu l'ambiance. Vous êtes prêts? Donc on va retourner dans le passé. Retournons dans le passé. Encore plus loin que Valentin précédemment. Encore avant la peste noire. Vous avez deviné de quoi on va parler?
Des Vikings. Des Vikings.
Donc voilà, alors moi j'ai découvert un musée qui a ouvert en 2019. Mais bon, je pense qu'avec le Covid, il a fermé un peu. C'est le Planet Viking. Est-ce que vous avez entendu parler de ce musée?
Non.
J'ai juste croisé le nom à un moment dans la rue, mais ça s'arrête là.
Bon, alors, petit musée incroyable au cœur d'Oslo, juste derrière National Theatret et Rådhuset, l'hôtel de ville. Donc, se cache ce Viking Museum. Et donc, là, on vous propose une expérience immersive dans la vie des Vikings. Waouh! Du coup, j'y suis allée cet après-midi. pour expérimenter tout ça. Donc j'ai pris la formule musée plus jeu en VR.
Ouais.
Donc j'ai commencé d'emblée par le jeu, plongé, hop, un casque VR, un arc et des flèches, et vas-y, nique tout le monde. ensuite, à un moment, il y a un petit entraînement, on a fait un peu
en
de...
VR, tout ça.
Tout ouais. ça en VR, ouais. Donc on apprend à shooter en VR, on apprend à se battre avec une épée. Voilà, bon, au début, petite formation, on est dans la confiance, ouais. Et puis rapidement, il faut buter tout le monde. Ou sinon, bah, ils viennent vers toi et tout ça. Donc j'ai quand même poussé des petits cris qui ont réveillé la personne qui travaillait. Genre, ça va et tout. Bah, oui, j'ai failli avoir une crise cardiaque à un moment quand il y a un gars là, qui est sorti avec sa flèche pour m'assassiner. Donc voilà, mais bon, on passe une demi-heure quand même bien immersif dans le truc. Est-ce qu'on prend du plaisir à buter tous ces gens? Je sais pas, personnellement, pas trop, mais bon, quand même, j'ai kiffé l'expérience. Et ensuite, on enchaîne sur un film en 180 degrés. Donc là, vous êtes... Oh là, pardon, mon casque tombe. Vous êtes dans une salle où, donc, avec un écran à 180, soit la moitié d'un écran 360. Et là, pareil, on va vous plonger pendant une dizaine de minutes dans un film... dont la vie des Vikings, donc les Vikings pendant l'été, les Vikings pendant l'hiver.
Mais les Vikings et la peste noire.
Sauf que c'est ultra bien réalisé par les équipes de George Lucas, production, etc.
Oui, okay.
Donc on est quand même sur du high level niveau image. Ouais. C'est assez bluffant. Ils ont complètement reconstruit des villages où donc vous pouvez avoir sur cet écran qui va se partager en 5 écrans. Des gros plans sur les travaux qu'ils faisaient au printemps ou commencer en hiver. À un moment, on passe à la guerre, là aussi, ça saigne.
Ouais.
Donc voilà, et ensuite, on continue encore toutes ces pérégrinations. Tout est à peu près interactif aussi. Donc on découvre toute l'histoire des Vikings, donc des années 700 à...
1066.
Où il était prêt, là.
Oh, bravo, Valentin.
Personne ne l'a dit avant la séance.
Non, personne ne te l'a dit avant la séance.
J'ai pas vu Emma.
Personne. Chut. Donc, 1066, qui était donc ce qu'on appelle la fin des Vikings.
C'est une bataille en Angleterre qui a marqué la fin.
C'est exactement ça. La fameuse bataille de Stamford Bridge, où le roi Harald le Sévère. Ouais, ça rigolait pas les pseudos à l'époque. Hein.
D'ailleurs, ça traduit comment en norvégien?
Eh bien, alors c'était, je sais plus là maintenant. Ah, tu me poses une colle là, je suis genre.
Dis un truc genre ce verre là.
Harald, je sais pas quoi, Harald le 12. Non, je sais pas comment on dit sévère, tiens, bonne question.
Tu auras dû sortir le numéro.
Ou après la pause musicale.
Ouais, après la pause musicale. Bref, pour continuer, parce que ce n'est pas fini, on passe à peu près entre une heure et demie et deux heures dans cet endroit. On peut aussi profiter d'un truc en VR, comme à Euro Disney, hein, sur les sièges qui bougent. Pareil, le casque en VR, et nous voilà plongés dans une attaque viking, là aussi.
Et sur le cheval ou...
Alors non, on passe en bateau, on voyage à peu près, j'ai envie de dire, à tous les temps de la Norvège. Et pareil, là, on vous plonge en pleine guerre, en pleine attaque de bateau, donc vous vous faites un peu buter à la fin aussi.
Voilà. C'est le jeu, hein.
C'est le jeu en même temps.
Donc pas mal d'adrénaline, finalement.
Pas mal d'adrénaline, et puis on est content de voir un peu aussi toute la VR évoluer, puisqu'on la retrouve de plus en plus dans tous les musées. Donc là, on se dédie complètement à ça, et c'était très cool, encore une fois, pour occuper vos marmots qui sont collés à leur téléphone.
Ouais.
Voilà, une bonne idée.
Tu te rappelles du prix de l'entrée?
Ah ouais, je me rappelle du prix de l'entrée. Tout à fait, tout à fait.
On n'est pas aux enfants.
Le musée tout seul, c'est 250 NOX, ce qui n'est pas, pas hyper pas cher, on va dire. Et avec le jeu, ils font une formule musée plus jeu en VR, là, que j'ai fait, qui était à 399
kwon. Ok.
Voilà, donc c'est... Mais bon, voilà, c'est... une activité culturelle comme une autre. Aller en ciné, c'est 200 couronnes.
Bon. Oui, ça part vite.
Puis, ouais,
c'est le prix d'un concert, c'est deux heures.
Tu as passé, deux heures en tout, c'est ça?
Ouais, et quand tu es fan d'histoire comme toi, Valentin, je pense que tu vas passer peut-être même plus de temps que moi en cliquant sur 700. 727, 911, attends, 911, c'était quoi en France? Tu vois, je pense que c'est fait pour les gens un peu comme toi aussi.
Je vais aller harceler cette pauvre personne d'administration qui a essayé de te calmer.
Non, 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 au contraire, elle est venue me rassurer, genre, ça va. Oui, excusez-moi.
Mais c'est marrant parce que moi, j'ai jamais fait de VR.
Ah, mais c'est génial.
Jamais, j'ai un peu peur, je me dis, ouf.
L'expérience est un peu variable selon les personnes. Il y a des gens qui peuvent mal le vivre. En tout cas, au début, ouais. C'était il y a quelques années. Il y a des gens qui avaient des risques de...
Ah, mais il y a toujours des risques. Hein. D'ailleurs, ils te disent, si vous ne vous sentez pas bien, si vous commencez à avoir des nausées, n'hésitez pas à enlever le casque tout de suite. Moi, personnellement, j'en ai déjà fait pas mal de trucs en VR. Ouais. Et un peu comme le mal de mer, j'ai la chance de ne pas l'avoir.
Ouais. T'as pas le mal de mer?
Ni le mal de l'air, ni le mal de la route, ni de rien. Donc au contraire, pour moi, c'est une expérience genre de ouf.
Ouais.
Je surkiffe. On peut faire j'ai vu des documentaires complètement bluffants. Où d'un coup, bah voilà, la narration change, on vous parle dans les yeux. Là, à un moment, justement, dans le film avec les sièges qui bougent, donc du coup, là, on a vraiment cette sensation immersive qui est décuplée.
Ouais.
Mais le gars en face, il te regarde dans les yeux, quoi. T'as l'impression vraiment que là, il te regarde et il dit « Meuf, ça craint, ça craint, on va se faire attaquer. Là, je vais bien, mais tu vois, il te regarde dans les yeux, tu le comprends, en fait.
» Un peu impressionnant, quoi.
Non, c'est pas mal.
Parce que si Suzanne vit mal la VR et en plus elle doit prendre le bateau avec son casque.
Ouais, oui, alors.
Mais c'est marrant parce que le mal de mer, je l'avais pas. Et en fait, depuis les dernières années, j'ai le mal de transport.
À tous les transports?
Bah ouais, là maintenant ça me le fait dans les bagnoles, pas dans les trains, mais dans les bus. Des fois, quand je regarde trop mon téléphone, après je me retrouve là dans les virages, je dis oula, on va se calmer là. Ouais. C'est fou, hein. Avant j'avais pas du tout, mais. J'ai eu un trauma, le ferry entre le Danemark et Kristiansand. Plus jamais.
Ah.
C'était une horreur. Tout le monde était malade. Ah ouais, ouais. Et puis t'entendais les gens courir avec les sacs. pour être... Ah ouais. Je vous en dis pas plus, ça vaut pas la peine.
j'ai pas entendu de bons échos sur certaines traversées entre Oslo et Copenhague. Hein.
Ouais.
Aussi.
Non, enfin, ça va. Bon, j'ai été malade une fois, mais c'est censé être plus calme.
Moi, je l'ai fait, c'était très calme. Ouais. Je me suis fait toper à l'avion, on s'est fait jeter de l'avion, et du coup, on a dû prendre un Flixbus pour faire Paris-Oslo.
Ça se fait jeter de l'avion ?
Bah, mon coloc avait pas sa carte, sa carte était périmée.
Oh.
Ils nous ont dit que ça passerait à la douane. Du coup, ils nous ont laissé passer avec le papier et tout. Et à l'embarquement, ils ont dit non. Et franchement, le ferry était chouette. En plus, il y a plein de choix de plats au restaurant. Et ça dure pas trop
plein
longtemps.
De Norvégiens qui se prennent une casse aussi, non?
Pas à cette heure-ci. Moi, j'étais avec des Français majoritairement.
Ok.
Mais c'était bien.
Moi, je ne l'ai jamais fait, mais on m'a dit.
J'ai entendu dire.
J'ai entendu des échos, pas folichon, oui, non. Sur les comportements norvégiens.
Il y a un groupe de cyclistes.
Ah, bon, là, ouais. Ça va en général. Les picolent.
Ça dépend si c'était avant le tour ou après le tour.
Bah, vu l'état des vélos, c'était après, je pense. Ouais.
Et est-ce qu'ils ont picolé?
Non.
Ah ouais, c'est non. Ça.
Ah, c'est des vrais,
c'était
quoi.
Des vrais,
ouais.
Quoi.
Ouais. Ouais, des vrais, des vrais. Mm. Et moi, la VR, ça me fait penser au film de Johnny English, vous l'avez vu? Un des deuxièmes.
Non.
Oh, mais c'est la scène, j'en pleure de rire. On le forme à la VR. Donc, c'est Rowan Atkinson, celui qui fait Mr. Bean, qui est Johnny English. Et il se retrouve donc, dans ce cercle de sécurité. On lui explique, ben voilà, tu marches comme ça et machin. Et en fait, dès le départ, en fait, c'est pas enclenché.
Ouais.
Donc la piste n'avance pas comme il faudrait et en fait il part.
il se barre
ouais. Ça faut la voir la scène, je peux pas faire de spoiler mais elle est géniale. Il se retrouve à se battre avec des gens dans la rue quoi. Et il pense que c'est sa mission quoi, enfin c'est vraiment génial.
Les dangers du métaverse.
Ah ouais, non mais là ça, parce que lui il a un personnage très en dehors de la technologie, il se retrouve propulsé dans cette. Il comprend rien. Quoi.
Il comprend même pas qu'elle a un casque sur les yeux, quoi.
Il comprend même pas qu'il y a un problème, quoi.
Ouais, ouais.
Enfin.
Mais nous y reviendrons parce que je pense que la VR, c'est un sujet passionnant parce que c'est utilisé dans l'éducation, c'est utilisé beaucoup dans la médecine maintenant.
Ouais, pour les traumas.
Pour les traumas, ouais, notamment la médecine psychiatrique. On fait des progrès gigantesques grâce à la VR sur des phobies comme la phobie du vide, pour certaines formes d'anxiété.
Tu nous en parleras dans une
prochaine chronique. Dans une nouvelle chronique, ouais. Il faut que j'aille fouiner d'abord un peu plus.
Ouais. Je vous propose qu'on fasse une dernière petite pause. Je ne sais plus qu'est-ce qu'on avait dit qu'on allait mettre comme musique. On va trouver.
Moi, je dis on va mettre du rap norvégien parce qu'on n'en a pas encore passé.
Allez.
Très bonne idée.
Ouais. Et je vais prendre les mecs de mon oud.
De ton oud ?
Ouais, c'est Tøyen Holding. Bon, je mets le premier morceau.
Allez.
Je pense que hop. Ça veut dire quartier.
Ouais. C'est ça.
Eh bien, de retour sur notre émission Brisons la glace, l'émission francophone de Norvège. Vous pouvez nous trouver sur SoundCloud, Brisons la glace, pour cette deuxième émission. Cette fois, on enregistra Dekman Bjørvika. C'est super, hein, pour l'instant, on se plaît bien. La semaine prochaine, on sera encore là. Si vous voulez vous nous rejoindre, on a aussi un groupe Facebook. Vous pouvez nous contacter pour participer aux émissions avec nous. Voilà.
Tous les sujets sont les bienvenus.
Toutes les voix sont les bienvenues.
On aime bien la diversité. Et on vous invite, à nous contacter. Mais c'est l'heure de ma petite chronique. Est-ce que on va réussir à
On est prêt.
On est prêt. Vas-y.
C'est culture et confiture. Moins tu en as, plus tu l'étales.
Ne passons pas à côté des choses simples.
Eh oui, alors on a importé un jingle de Copenhague parce que c'était un grand moment pour moi de revenir sur cette chronique culture et confiture. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler qu'il y a des différents calendriers, il y a eu différents calendriers dans le monde. Alors... Il y avait par exemple le calendrier grégorien, oui, qui a été remplacé par le calendrier.
On fait un trivial poursuite en fait,
ouais,
là, c'est
ouais,
ça
ouais.
C'est ça, ok.
Révolutionnaire, bon. J'ai pas le mot précis.
Le calendrier qui s'appelle Julien, inspiré par Jules César. Et lui a pris en compte les années bissextiles, donc c'était pour éviter qu'une dérive s'installe dans le futur, hein, parce qu'il fallait bien 365 jours et des brouettes pour faire le tour. Mais en fait, si on ajoute un jour tous les 4 ans, et ben en fait, sachant que la moyenne, donc c'est 365,25, ouais. Et en fait, l'année astronomique, c'est de 365,2425. Donc ben, on perd 3 jours tous les 400 ans. Bon, ils se sont dit peut-être que bon, en fait, c'est pas trop grave.
Petite précision par rapport aux Vikings, je me permets d'y
revenir. Ah oui, vas-y.
Les Vikings, eux aussi, avaient un calendrier très particulier.
Ah oui,
qui était basé, eux, sur les saisons. Mais qui, du coup, ressemblait plus ou moins à 365 jours déjà.
Mais non, ils étaient vachement au point.
Ils étaient hyper au point. Bon voilà, pardon.
Et bon, après ça, il y avait le calendrier républicain. Je rate Monsieur Histoire. Instauré par...
Robespierre. Danton.
Et donc, c'était pris par la Convention le 7 octobre 1793, autrement appelé dans le calendrier républicain le 15 vendémiaire en 2, voilà, où la semaine était remplacée par une décade. Ouais. C'était plus 7 jours, c'était 10 jours. Et ils avaient des noms latins, donc c'était primidi, duodi, tridi, quartidi, quintidi, sextidi, septidi, octidi, nonendi, décadi. C'est un peu compliqué.
Décalé quatre.
Pas la même ambiance. On se retrouve le 23 mars. Donc si on était en calendrier républicain, ça serait le 3 germinal de l'année 231. Et aussi le jour de l'asperge. Voilà.
Ah ça, par contre, on n'en parle pas assez.
On en parle
pas.
C'est pour ça que je fais une chronique.
Ce légume de saison introuvable dans les norvégiens pour l'instant.
Non, mais pourquoi je vous parle de calendrier ? C'est parce que j'ai fouillé un peu Wikipédia et le 23 mars, c'était un peu une date d'anniversaire pour un autre créateur de calendrier qui s'appelle Alfred Jarry. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de Alfred Jarry ?
Non.
C'est le bureau ?
C'est celui qui a écrit
Oui. Oh, il est trop fort, ce mec.
Il est trop fort. Bah, il si a tous les camemberts, déjà. Il les...
Ah, mais Burwa, attends, on me l'a collé au lycée, on me l'a collé en prépa, il faut arrêter, là.
C'est
Alfred Jarry, il rentre pas, pardon.
C'est très bien. Donc, Alfred Jarry, ça commence à dater, hein, parce que c'est un... Donc, il est né en 1873, et c'est un poète, romancier, un dramaturge. Il est né d'une famille très pauvre, un père alcoolique. Donc sa mère les a déménagés de là pour s'installer donc de Laval à Rennes. Il s'en sort pas trop mal à l'école, hein, puisqu'il il découvre sa passion pour l'écriture. Il écrit des pièces, notamment pour des marionnettes, pour se foutre de la gueule de ses profs. Donc c'est pas mal. Et il commence à créer le personnage qui va devenir Uburoi. Il entre à Henri IV, mais il échoue à Normale Sup. Voilà.
Ridicule.
Voilà. Mais il commence son premier boulot. Il écrit des papiers pour un journal d'art. Et quelques années plus tard, il fait sa première présentation de la pièce Uburoi. Mais il est aussi connu, Alfred Jarry, pour avoir créé le calendrier pataphysique. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça ?
Absolument pas.
Non, déjà, qu'est-ce que la pataphysique ?
Ben voilà, et ben on ne sait pas.
Moi, je connaissais le pastafarisme, mais le pataphysique.
Non, c'était complètement créé par son univers un petit peu du Uburoi, un petit peu décalé. Il a aussi. Donc, il s'est écrit sur Wikipédia, le calendrier a été inventé par le collège de pataphysique en 1948. Donc, c'est bien après ce qu'il avait fait lui. Mais sachez que le calendrier a des noms extraordinaires, encore plus extraordinaires que le calendrier républicain. Donc, je vais vous donner les mois. Donc, il y a 13 mois, il n'y en a pas 12. Ils sont tous de... Il y en a 12 de 28 jours et un de 29. Alors, le premier mois s'appelle Absolu.
Oh.
Voilà. Du 8 septembre au 5 octobre.
Ah, ensuite... on commence en septembre, là.
Ouais, voilà. Okay. Bah, très bien.
Année scolaire.
Ensuite, le deuxième mois, c'est Haha. Voilà, du 6 octobre au 2 novembre.
Ok.
Comme le groupe norvégien.
Voilà.
Non, c'est un
le troisième mois, c'est As, du 3 novembre au 30 novembre.
Comme le... Hein?
Voilà. Mmh. Non, mais...
Je te la laisse.
Mais... voilà.
On n'a pas besoin de la dire, tu vois, c'est avantage.
Le quatrième mois, donc, qui est le mois de décembre, donc du 1er 28, c'est le mois Sable. On ne sait pas pourquoi. Voilà. Mais on continue avec
le mois Feng Shui.
Alors là, je comprends un petit peu mieux. Du 29 décembre au 25 janvier, c'est le desservelage.
Ah.
Donc ça fait un peu sens entre bon, la fin de l'année, on fait la fête, etc. Sachant que Jarry était un gros consommateur d'absinthe, donc il a beaucoup écrit sous l'influence d'alcool. Bon, il a un peu suivi les pas de son père. Voilà. Le mois 6, c'est gueule, au pluriel, du 26 janvier au 22-23 février.
Ah, c'est vrai qu'on était un peu en colère, là.
Ah oui, un peu en colère. Bah, ça continue, parce que le septième mois, c'est pédale, du 23 février au 22 mars.
Bah, c'est pour tous les adeptes de vélo.
Il y a la journée contre l'homophobie aussi, ce mois-ci.
Et sachant que Alfred Jarry lui-même était homosexuel, donc c'était peut-être un clin d'œil pour ça. Et le 23 mars, c'est le premier jour du mois de Clinamen. Un nom sympa,
Le nom de plante ou le nom de médicament un peu chelou.
Voilà. Après, on a le palotin, le mois de merdre, le mois guidouille, le mois tatane et le mois phal.
Le mois tatane, c'est le mois marseillais, ça.
Bah, du 14 juillet au 10 août.
Ah bah, tu vois, voilà. On est sur la canne de bière.
La tatane. Voilà. Donc, je voulais partager un petit peu cette trouvaille...
Écoute, merci.
...culturelle qui ne sert à rien, mais voilà.
Et qui fait toujours plaisir.
Je me suis dit, l'anniversaire du calendrier pataphysique, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Donc là, j'ai vraiment d'autant plus envie de lire ses œuvres, hein, parce qu'apparemment, c'est...
Moi, je t'invite à parler du pastafarisme la semaine prochaine.
Pourquoi pas ? Pourquoi pas ?
Et du patatisme.
Et du patatisme.
Patatisme.
Je viens de le sortir.
Tu viens d'être d'accord. Ouh là là. Bon, ben voilà, c'était juste un petit délire de culture.
Eh ben merci, Suzanne, pour tout ça.
Mais on voulait terminer l'émission avec nos petits conseils. Non, qu'est-ce qu'on a dit ? Oui, c'est bientôt les vacances.
C'était ça.
Les vacances de Pâques arrivent à grands pas. Est-ce que vous avez des conseils ou est-ce que vous avez des plans autour de la table pour ces prochaines vacances, Alice.
Pour commencer, vas-y. Parce que je suis une très grande contrôle fric et j'adore tout organiser.
Aha.
Du coup, j'ai organisé un voyage 2 jours à Copenhague en faisant un itinéraire sur map et en cherchant la météo. Du coup, rapidement, on peut commencer par aller voir le château de Rosenborg, puis après le Kongenshav, qui est du coup le jardin qui est à côté. Puis le palais d'Amelianborg et la relève de la garde qui est vers 11h30. C'est assez sympa, regardez, ils sont assez synchro. Puis après, on a la tour ronde. C'est 5 € pour monter et la vue de tout en haut est très jolie. Puis à l'intérieur, il y a une petite exposition, donc c'est assez cool. Et après, on va au palais de Christiansborg. Puis après on peut aller à Christiana.
Ah bah voilà.
Voilà.
Enfin. Ah, on y retourne. La fête à Nice
là. Drogue est légale. Voilà, c'est un petit village au sein de Copenhague qui est autogéré et du coup on peut acheter de la drogue. Je pense qu'il vaut mieux la consommer sur place. Mais voilà, il y a pas de monopole dans ce village. Vraiment, tout le monde se partage l'espace. Ils ont même un chat. Voilà.
Ils ont même un club de foot.
Oui,
ils ont
un skatepark.
Ils ont tout.
Plein de choses.
Ils ont tout.
Sur un ministère de la Santé aussi.
Voilà. Après, on peut aller à l'église Notre Sauveur, qui est très très belle.
Pour confesser ses péchés de la veille.
Ah, voilà.
qui est en rénovation en ce moment, donc on peut pas monter, mais c'est. Quand elle sera rénovée, je pense que c'est possible de monter. Et après, on peut aller au port pour finir à Nyhavn. C'est très joli. Il y a plein de petits cafés pour se poser en fin de journée, regarder le coucher de soleil. Voilà, il faut éviter en temps de pluie et de vent, par contre, parce qu'il y a un fort risque de s'envoler en traversant le port. Voilà. Sinon, pour la deuxième journée, il y a le Statens Museum for Kunst, qui est pas mal. Et Castellet, qui est joli, ouais. Voilà, l'architecture et la construction de la zone est vraiment très belle. Du coup, voilà.
Et pour ceux qui aiment bien bouffer, il y a aussi tous les restaurants de malades de Copenhague.
Oui. Ah bah, j'ai envie d'un concert qui est un concept, c'est Absalon, je ne sais pas si tu as déjà allé. C'est sur Vesterbro, et c'est tous les soirs à 6h ou 5h. Il y a un dîner communal et ça coûte que 50 couronnes. Donc ce qui est vraiment pas cher.
Pas cher, ouais.
Donc si vous pouvez prendre vos places en avance. Mais sinon, vous pouvez vous pointer le jour même. Je sais que le lundi, c'est végétarien. Je crois qu'il y a un autre jour dans la semaine, mais ça dépend. Et c'est souvent sympa. Et c'est, en fait, ça fonctionne par table de 8. Donc ça veut dire que si vous êtes... tout seul, ben vous allez vous retrouver avec d'autres gens et partager...
du coup, la fête, des nouveaux potes, tout ça. Voilà. C'est pour Alice.
Ouais, voilà. C'est pour compléter tes conseils. Valentin.
Moi aussi, je sors du pays parce que je vais aller à Stockholm.
La fête.
En Flixbus.
Oui, moi aussi, bientôt.
Donc, je ne suis pas aussi rigoureux sur le voyage, donc je vais laisser place à l'improvisation. Après, oui, il y a d'autres voyages, je pense, qui peuvent se faire. C'est pas encore la saison des randonnées, je pense, Pâques.
On continue de faire du ski. Moi, personnellement, j'ai la chance d'aller à la montagne, normalement, pour Pâques.
Tu vas où ?
Je vais à Lillehammer, si tout va bien. Faire du ski de piste, pour changer un peu. Voilà. Mais sinon, il y a une escapade, les escapades suédoises, elles sont les bienvenues à Pâques. Parce que rappelons qu'Oslo, c'est ville morte ou ville métal. Au choix. Donc, si vous êtes à fond dans le black metal et le viking metal aussi, sous-genre du metal, n'hésitez pas, c'est le plus gros festival de metal norvégien a lieu pendant Pâques.
Eh bien, les amis, on va se laisser sur ces derniers conseils. Merci à tous les trois d'être venus parler de notre actualité à Oslo et d'autres sujets. On se retrouvera la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Un grand merci. Ciao.
Merci à vous.
Salut, merci.
Bonne soirée, salut.